Nous sommes mercredi 9 octobre 2019, il est 18h au studio Kalangou, tout de suite à Le Journal en français, dans une présentation de Nefis Adam Sirfo. Les titres de ce journal, une centaine de jeunes filles leaders de toutes les régions du Niger sont réunies à Niamey pour le tout premier forum national des jeunes filles leaders, des précisions avec une initiatrice de ce forum dans ce journal. L'infertilité serait à la base de la destruction de nombreux mariages en Afrique, a indiqué la première dame du Niger, Esseta Issoufou. C'était hier à l'occasion de la journée d'information organisée à l'intention des journalistes nigériens par sa fondation Guri Vie Meilleure. Dans le magazine d'aujourd'hui, le président de l'association Libre Afrique du Niger analysera la fermeture des frontières du Nigeria, ce géant de l'Afrique. Bonsoir à tous. 100 jeunes filles de toutes les régions du Niger sont à Niamey à compter d'aujourd'hui autour du thème « Leadership féminin, gage d'un développement durable et de consolidation de la paix ». C'est dans le cadre de la première édition du Forum national des jeunes filles leaders. Écoutons l'organisatrice Idani Abdoulaye Kadidiatou, membre de New Challenge, interrogée par Rukayatou Abdurrahman.
L'objectif principal que nous visons d'abord, c'est de créer une synergie d'action entre les jeunes filles leaders du Niger autour d'un seul objectif, parler de la consolidation de la paix et du développement durable du Niger. Durant ces 3 jours, il y aura des conférences panel, des débats, des partages d'expériences et vraiment des communications très riches sur les droits de la femme, la santé des jeunes et adolescents, le leadership féminin, l'entrepreneuriat, la paix et aussi sur l'extrémisme violent. Puis à la fin, il y aura des recommandations, il y aura une conclusion, une feuille de route que nous allons dégager ensemble pour pouvoir vraiment impacter plus et aller de l'avant. Ces participantes-là seront des relais dans les régions pour vraiment être des ambassadeurs de la femme, du leadership féminin, essayer de défendre les droits de la femme, de passer des messages de la paix auprès de leur communauté.
L'infertilité dans le couple était hier à Niamey au centre des échanges entre hommes des médias et acteurs de la santé. C'est dans le but d'outiller ces journalistes à mieux sensibiliser le public sur la stigmatisation autour de l'infertilité, notamment celle de la femme. Selon la première dame du Niger, l'infertilité serait à la base de la destruction de nombreux mariages en Afrique. Issoufou Aissata, présidente de la fondation Guri Vie Meilleure, initiatrice de la formation sur des propos recueillis par Rayla Toussoumane.
Dans nos sociétés, quand l'enfant vient à manquer dans un couple, la femme est le plus souvent tenue pour responsable de la stérilité de ce couple, à la fois par son mari, sa belle famille et par son entourage. Une étude du groupe interafricain de recherche et d'application sur la fertilité, GRF 2017, a mis en évidence le partage des responsabilités dans les problèmes d'infertilité. Femmes et hommes sont en cause dans 40% des cas chacun et dans les 20% du cas restant, les deux personnes du couple ont des difficultés à concevoir. En Afrique, la première cause d'infertilité chez les femmes, ce sont les infections sexuellement transmissibles, mal soignées, d'avortements pratiqués hors du milieu médical ou d'accouchements qui se font encore dans des conditions génératrices d'infections. Pour peu qu'on s'adresse aux spécialistes de la médecine, de nombreux traitements existent et peuvent augmenter considérablement les chances pour un couple de devenir parent.
Pour avoir passé une nuit de plus en détention malgré sa relaxe la veille le jeudi 3 octobre, l'acteur de la société civile Abdou Daneto entend porter plainte contre le parquet du tribunal de Maradi. Au micro de Mohamed Maman, il estime que ses droits ont été violés. On l'écoute.
Ce procès, je peux dire que nous on l'a accepté, on peut ne pas l'accepter. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est sur une presse que j'ai eu à parler. Et normalement, c'est la presse-là qu'ils devront convoquer et traiter avec elle parce que c'est le délit de presse comme on le dit. Si même il y a délit. De l'autre côté, on a empêché la liberté d'opinion. Nous, on a accepté de faire le débat au tribunal pour que les gens sachent la vérité. Moi, je suis acteur de la société civile. J'ai été relaxé par le juge. Maintenant, si le parquet ne m'a pas libéré, il a ses intentions. Mais j'ai fait constater par un huissier de justice que j'ai passé une nuit de plus à la maison d'arrêt. Et là, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes obligés d'accepter la loi. Si ça a été fait dans les normes, d'accord, on verra bien. Si les gens se croient avoir le pouvoir, ils peuvent tout faire, donc allons-y dans ce sens. Je peux porter plainte, on peut me donner raison comme on peut ne pas me donner raison.
Rappelons que Danetto avait été poursuivi pour ses propos de l'affaire dite de la mallette de dollars retrouvée dans le département de Tessawa. Les enfants, ces victimes invisibles de la peine de mort, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Au Niger, une semaine de mobilisation et de plaidoyer est initiée par la coalition nigérienne contre la peine de mort et le mouvement abolitionniste nigérien. Selon le président de cette coalition, les enfants des personnes condamnées à mort sont exposés de la nature et souffrent de leur chair. Garba Ilou Mokhtar est interrogé par Adama Dawaki.
Le mois de mai passé, à l'issue des 8 condamnés à mort qu'on a connus à Zinder et à Niamey, il y a parmi eux des gens qui ont des enfants. Ces détenus ne voient plus leurs enfants et finalement la famille est dispersée. Les enfants sont victimes invisibles parce que c'est des enfants qui sont exposés dans la nature et qui risquent d'être une bombe à retardement. Ils ont perdu une famille proche, ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu la scolarité, ils ont perdu l'encadrement. C'est des enfants qui souffrent dans leur chair. Le soutien peut être sur multiples formes. D'abord, les visiter pour les apporter un soutien psychologique. Il faut les encadrer, il faut les soutenir sur le plan médical, sur le plan ration alimentaire, sur le plan conditions de vie. C'est des humains. Lutter contre la peine de mort n'est pas libérer les prisons, n'est pas libérer des criminels de la nature, non. Nous nous disions que s'il faut agir, il faut brandir sur la conscience qui a réprimé d'abord la peine de mort. Et cette année, au-delà des séries de plaidoyers, nous avons prévu les visites des maisons d'arrêt le 9 octobre dans toute l'étendue du territoire.
L'élection présidentielle, c'est le thème général de la deuxième édition des journées scientifiques de droit constitutionnel qu'organise jusqu'au 11 octobre à Niamey l'Association nigérienne de droit constitutionnel en collaboration avec la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni. Le panéliste professeur Paterne Bombo de Côte d'Ivoire parle du rapport entre multipartisme et élection présidentielle, objet de sa présentation. Il est au micro de Moussa Hassan.
Ce thème est bienvenu parce qu'il permet de toucher à un certain nombre de questions essentielles pour le continent africain où les élections présidentielles sont toujours un moment de tension sociopolitique parce que l'élection présidentielle en Afrique cristallise des intérêts divergents. Moi, j'ai plutôt axé ma réflexion sur le rapport élection présidentielle et multipartisme en Afrique pour montrer la relation entre ces deux notions, pour voir si en Afrique, on a observé un intérêt vif pour les élections présidentielles depuis l'instauration du multipartisme. De façon générale, les élections présidentielles sont devenues attractives depuis l'instauration du multipartisme. J'ai montré que malgré l'instauration du multipartisme, on note une faible influence du multipartisme sur l'issue des élections présidentielles parce qu'on constate encore l'enracinement endémique de la fraude électorale et le rejet presque systématique des recours déposés par les partis d'opposition lors des élections présidentielles.
La suite de cette édition, 162 demandes de statut de réfugiés acceptées, 33 rejetées et 3 nécessitant des compléments d'information. Ce sont les résultats de la commission d'éligibilité au statut de réfugié qui a étudié à Tillabéri du 18 au 28 septembre 198 dossiers des demandeurs d'asile soudanais d'Agadez. Les explications de Yacouba Soukarijou, directeur régional de l'état civil d'Agadez, interrogé par Moussa Maman.
Sur les 198 dossiers, 162 ont reçu l'avis favorable de la commission, c'est-à-dire que la commission leur reconnaît le statut de réfugié au Niger. Les 33 ont reçu un avis défavorable et 3 dossiers reportés pour complément de dossier, ce qui nous fait un total de 198. Avant-hier, la commission nationale d'éligibilité nous a envoyé les décisions au nombre de 195 décisions que nous allons dès demain remettre aux bénéficiaires. Parmi les 33 avis défavorables, quand j'ai un peu parcouru les dossiers, il s'agit des mouvements secondaires, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà dans des camps de réfugiés au Tchad, mais qui ont préféré quitter pour venir au Niger.
Restons toujours dans la région d'Agadez où la commune d'Agadez s'active à installer 398 agents opérateurs pour l'enrôlement biométrique. Nous sommes tout à fait prêts pour commencer le processus d'enrôlement, a annoncé Adamou Habi, président de la commission administrative de la commune d'Agadez. Il est au micro.
La commune est en train d'installer à peu près 398 agents opérateurs, dont la plupart sont venus des autres régions. Et à ce jour, nous sommes tout à fait prêts pour commencer vraiment les travaux d'enrôlement. parallèlement. Le processus a commencé depuis le 1er octobre jusqu'à ce jour. Depuis le 1er octobre, nous sommes à pied pour que ce travail se fasse dans les conditions les meilleures. Vous connaissez très bien que c'est beaucoup de gens qui sont venus à Agadez, même les héberger, leur trouver là où ils vont loger, leur faire comprendre où sont les différents CV, leur montrer les différents villages qui sont au niveau de la commune de Bilbao d'Agadez. Tout ça, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Les gens ne comprennent pas. Ils croient que dès le premier, c'est le début pour que les gens partent dans les CV pour se faire enrôler. Non, non, c'est un processus et ce processus, il est en cours.
En bref, mardi, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Kelly Craft, a déclaré que le gouvernement du Mali et les groupes armés signataires de l'accord de paix ont fait peu de progrès pour l'appliquer. Ceci n'est pas acceptable et nous ne pouvons continuer à soutenir une mission de paix qui profite aux parties signataires alors qu'elles refusent d'appliquer pleinement leur engagement, a averti la diplomate américaine selon une dépêche de l'AFP. Répétant une menace ancienne de Washington, Kelly Craft a évoqué implicitement l'idée de mettre un terme à la MINUSMA, une grosse opération militaire au coût annuel dépassant le milliard de dollars et qui subit régulièrement des attaques meurtrières.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et studio Kalangu au rythme du Niger.
La partie magazine de ce journal, depuis le 20 août, le puissant Nigeria, membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a fermé ses frontières, pénalisant ainsi les peuples voisins qui visent des échanges. Comment comprendre une telle décision alors que depuis 1975, la CEDEAO a été créée justement pour briser les barrières et réunir les peuples? Olivier Asokbavi s'est entretenu avec Mustapha Diallo, juriste et activiste et président de l'association Libre Afrique Niger. On les écoute.
En 1975, lorsque la CEDEAO avait été mise en place, l'idée première, c'était de permettre libre circulation des personnes et des biens, également de sauter certains verrous qui empêchaient l'économie ouest-africaine de décoller.
Il y a de cela quelques semaines que le Nigeria a fermé ses frontières, dont certaines avec le Niger. Que pensez-vous d'une telle décision?
C'était vraiment inquiétant. Moi, lorsque j'avais appris, j'avais essayé de comprendre pourquoi. J'ai suivi également les autorités nigériennes qui ont essayé d'expliquer pourquoi. Au regard de mon œil d'analyste, je pense que les raisons qui ont été avancées ne sont pas des raisons qui peuvent justifier la fermeture des frontières.
Donc en clair, cette fermeture des frontières est illégale au vu des protocoles et conventions qui régissent la CEDEAO.
C'est vraiment un abus, hein, parce que l'argument qu'ils ont avancé, c'est qu'il y a des marchandises qui rentrent sur le marché nigérien, alors que de l'autre côté, il y a un protocole qui a prévu des taxes qui doivent frapper toutes les marchandises qui ne proviennent pas des États membres de la CEDEAO. Donc si c'est une réalité que ces produits-là, notamment le riz, n'est pas un riz qui vient des pays producteurs qui sont membres de la CEDEAO. La seule chose que le Nigeria pouvait faire, c'est vraiment de faire en sorte que les opérateurs économiques puissent payer des taxes plus que ceux qui sont de l'espace CEDEAO.
Pas surtout fermer
les frontières. Surtout fermer les frontières, parce que la fermeture, quoi qu'on dise, c'est une entrave grave à la libre circulation des personnes et des biens. Il y a des règles pour sanctionner les États qui ne respecteraient pas les principes qui ont guidé à la mise en place de la CEDEAO. Mais malheureusement, comme vous le savez, les relations internationales sont des relations vraiment très conflictuelles et surtout un rapport de force. Aujourd'hui, si vous dites que vous allez sanctionner le Nigeria pour n'avoir pas respecté un certain nombre de principes par rapport à la CEDEAO, il serait très difficile d'avoir bon nombre de pays qui vont s'aligner derrière votre cause. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, c'est le Nigeria qui tient la CEDEAO. Mais sinon, les sanctions existent bel et bien dans les textes de la CEDEAO.
Le siège de la CEDEAO est au Nigeria. Quel message ce pays envoie aux autres pays de la communauté en fermant ses frontières, c'est-à-dire en brisant l'une des règles qui régissent la vie en communauté?
C'est un mauvais message qu'ils sont en train de véhiculer aux membres de l'espace. Et cela ne reflète pas vraiment ce qui avait guidé la mise en place en main 115 de la CEDEAO. Et malheureusement, cet objectif est en train d'être écorné.
C'est sous cet entretien que se referme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie d'Alassane Kouzi Mahamadou et ses invités pour le forum du studio Kalangou, qui a pour thème ce soir « Gestion durable des ressources naturelles au Niger. Quelles sont les bonnes pratiques dans un contexte d'insécurité et de pression accrue de l'homme ?»